Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le fatigué, le crevé, le mort-vivant, Julien Vénesson.
Salut Rudy.
Donc Julien, première information, tu es fatigué.
Bah pour ceux qui n'auraient pas compris, oui. Je n'ai plus la fougue de la jeunesse comme toi.
La fougueuse, oui, ça doit être ça.
La fougueuse, ouais.
On va dire ça. Yep. Donc j'avais quelques actus, donc le concours de l'Opocus Super Physique est terminé. Donc il s'est fini hier, j'ai validé les dernières vidéos qui étaient apparues hier sur le club Super Physique, donc aujourd'hui. Donc il m'a quelques vidéos à mettre que j'avais reçues avant sur le compte Super Physique aussi. Donc on a eu, je trouve que c'est pas mal parce qu'au départ ça avait du mal à se lancer et au final on a eu près de 50 participants. Donc c'est pas mal pour un concours internet dont la seule pub... se trouve sur le site et sur les réseaux. Donc je contacterai ou Fabrice contactera les gagnants dans les 15 jours qui arrivent. Il nous reste le tirage au sort à effectuer. Donc je sais plus comment il le fait, mais c'est un vrai tirage au sort, il n'y a pas de magouille. Hein. Donc pas besoin d'envoyer un message pour me dire on veut gagner le banc. Je rigole, mais il y en a qui vont. Il y en a un qui m'a envoyé un petit message, il m'a dit petit Jésus, faites que je gagne le banc. Il m'a fait rire. Donc voilà, donc d'ici 15 jours, les lots seront. Envoyé. Et je vais faire un petit point donc, sur le PRP. Donc, ça fait un petit moment que je mets des photos sur Facebook sur le PRP. Donc, le PRP, concrètement, en fait, c'est on prélève du sang, on le passe dans une centrifugeuse et on le réinjecte dans une zone lésée. Donc, on le fait souvent pour les tendinites chroniques ou les claquages, etc. Et donc, bah, c'était l'occasion d'essayer pour moi parce que j'avais ce qu'on appelle une enthésopathie à l'ischio-jambier droit. Donc d'après les articles qu'on lit sur internet sur le PRP, c'est miraculeux, c'est magique. Deux jours après, on est tout neuf et compagnie. La réalité, bah, c'est que c'est pas magique. Fallait s'en douter, il n'y a pas de miracle. Ça soulage. Un petit peu, donc on a moins mal, mais ça ne fait pas partir, ça ne répare pas comme c'est dit dans les articles.
Faut que tu prennes un coach, comme ça t'auras plus mal.
Ouais, bah non, mais bah, c'est pas compliqué.
Hein. T'explique comment t'entraîner.
Ah, pour ceux qui savent pas ce que c'est une enthésopathie, en fait, c'est une inflammation de l'insertion du tendon sur l'os. Donc, il y a un petit bout de tendon qui est enflammé et un bout d'os. C'est pour ça que c'est assez chronique et que ça part pas, en fait. Ça a du mal à partir. Vous tapez ça sur Internet, il y a sur Google, on voit bien qu'il y en a plein comme ça et que c'est la merde. Donc, tout ça pour dire, le PRP ne marche pas des masses. Ça soulage, si vous donnez un petit truc, je pense que ça va soulager. Donc il n'y a pas beaucoup de centres en France qui le font. J'en avais trouvé 4. C'est pas remboursé par la sécu non plus, ça coûte une centaine d'euros. Mais si vous donnez un petit truc chronique, ça peut valoir le coup, au lieu de faire une infiltration qui est bien plus dangereuse pour le tendon. Et enfin, dernier actu que j'ai pas noté, on a lancé des commandes de t-shirts Super Physique parce qu'on en a pratiquement plus. Je crois qu'on a pratiquement écoulé le rouge, là, il reste rien. Et sur le noir, il doit en rester 3. Donc, ceux qui en veulent, dépêchez-vous vite. Sinon, il faudra attendre une petite dizaine de jours avant qu'on reçoive les nouveaux. Donc, voilà. Julien !
Oui ?
Es-tu réveillé ?
Bah, tout à fait. Hein.
Alors, Julien, lors du dernier podcast, tu as réduit à néant les croyances en l'homéopathie. Donc, ma question concerne la phytothérapie. En est-il de même ? Ou bien est-ce une bonne médecine douce ?
Ben, la phytothérapie, pour moi, c'est pas spécialement une médecine douce, c'est une médecine. Hein. Y a beaucoup de médicaments qui sont dérivés des plantes. Hein. Donc, faut savoir que l'intérêt du médicament, c'est qu'on peut le breveter et on peut pas faire ça avec une plante. Donc, les plantes peuvent avoir des effets secondaires graves comme les médicaments. Donc, bon, pour moi, y a pas de différence. La phytothérapie, ça fait partie de la médecine et On a toujours utilisé les plantes pour soigner ou pour prévenir des problèmes de santé. Par exemple, aujourd'hui, on a bien des compléments alimentaires avec des extraits de caroténoïdes, par exemple, pour la santé des yeux. Bah, les caroténoïdes, c'est extrait de végétaux. Hein. Les végétaux, c'est des plantes. Donc voilà, pour moi, c'est... Et de toute façon, il y a aussi effectivement plein d'études qui montrent que parfois la phytothérapie fonctionne. Mais comme pour les médicaments, il y a aussi des fois des plantes qui ne fonctionnent pas ou qui sont pas adaptées à tel ou tel problème. Donc voilà, après c'est faut voir pour quel problème qu'est-ce qu'on va prendre. Mais sinon, en soi dans le concept, c'est des substances actives, donc elles ont une efficacité. C'est ce qui distingue de l'homéopathie. Dans l'homéopathie, le concept veut qu'on dilue la substance active à tel point qu'à la fin, il n'en reste plus du tout. Donc c'est très très différent.
Voilà. Bah, je crois que ça répond bien à la question, Julien.
Bah oui.
Merci de ta réponse, Julien.
Je t'en prie.
Vu la fougaise dont tu as fait preuve.
Oui, je suis d'une grande fougaise ce soir.
Alors, question d'entraînement. Je vais répondre à deux en une, en fait. Donc, c'est un ancien de mes élèves qui pose la question. C'est, il me demande en gros ce que je pense des méthodes contrastées. Donc, c'est-à-dire qui enchaîne un mouvement normal avec un mouvement explosif. Comme par exemple la méthode Impact, dont j'avais interviewé Christophe Pourcelot sur le site. Donc, on peut la retrouver facilement. Donc, j'aime bien ce que fait Christophe Pourcelot. Comme ça. Donc, la question, c'est intégrer des mouvements explosifs, statodynamiques, au poids de corps, théorique, etc., pour préparer le muscle de travailler sous une autre forme. Est-il intéressant? Donc, dans le cas de Florent qui pose la question, n'ayant jamais pratiqué de sport de vitesse, puissance type athlée, je me suis aperçu que ça me manquait. Est-ce que cela peut apporter un plus musculairement à terme, ou est-ce trop tard à mon âge? Je te rappelle que j'ai bientôt 32 ans. Donc, alors après, ça dépend toujours du point de vue où on se place. D'un point de vue 100% prise de muscle, ça n'a aucun intérêt.
Et pourtant, Rudy, toi, tu fais bien du sprint en vélo pour muscler.
Ah, putain, il est con, celui-là. Ah, le salaud. Petit aparté sur le vélo. Ne croyez pas que le vélo fait plus les cuisses qu'une séance cuisse. Julien,
attends, faudrait savoir, c'est ce que tu nous as dit.
Ah, le salaud, putain. Après, je vais recevoir des messages encore.
Tu veux perdre les auditeurs. Tu veux
Ah, putain.
Oh non, là, franchement, Rudy.
Ah, Charlot.
Non, mais là...
Non, je fais du vélo parce que ça m'amuse. D'abord. Et après, ça me fait les quads, mais ça me fait moins les quads qu'une séance cuisse. Forcément.
Oui. Bon, c'est pas ce que tu me dis quand on est hors enregistre.
Oh, un morceau, quoi. Voilà. Est-ce qu'Akuma fait du vélo, peut-être?
Non. Il a des trop petites pattes, en fait. Il arrive pas à atteindre les pédales. Donc, pour l'instant, il peut pas.
Bon. Reprends la question de Flo. Donc, dans un point de... Du point de vue 100% muscle, prise de muscle, etc., il n'y a pas trop d'intérêt à faire des mouvements explosifs, statodynamiques, etc., un peu fonctionnels. Après, dans un type d'entraînement plus axé sur la performance, que ce soit donc dans n'importe quel sport, hein, aussi bien le powerlifting, donc la force, que pour, je sais pas, l'athlète ou pour le vélo, ou n'importe quel sport, en fait, oui, là, c'est un intérêt... assez intéressant. Donc là, je vois que, par exemple, tu dis que...
Un intérêt assez intéressant.
Oh, il me coupe son chapeau, putain.
Non, vas-y, je t'écoute.
Donc Flo, est-ce que ça va t'apporter un plus musculairement? Je ne pense pas. Après, je comprends que ça te manque. Moi, j'avais remarqué aussi que quand je faisais moins d'explosivité et puis que je m'amusais à une époque à contrôler mes mouvements à fond, à contracter, etc., que... On perdait de l'explosivité, de la réactivité, on était un peu lent dans la vie de tous les jours. Et depuis, donc c'est la question suivante, en fait, que j'ai pas noté, mais qu'on m'a posé. Et on avait vu qu'à l'époque, donc il y a plus d'un an, je faisais des sprints et pas mal d'exercices de plio. Justement, et donc on me demandait, comment j'intégrais ça. Donc, moi, ma pratique est plus axée, donc, forcément sur la prise de muscle, mais la performance a quand même une part importante, à mes yeux. Donc, je fais pas mal de, qu'il y a pas mal. J'ai un petit peu d'exercice explosif. Après, mon exercice principal, c'était par exemple, je fais les cuisses, je vais faire mon squat, je vais monter, et après, je vais faire des sauts verticaux sous différentes formes pour essayer de booster l'explosivité de mon squat, donc quand je vais pousser. Mais voilà comment j'intègre ça. Je fais pas de séance à part. Quand je faisais des séances de sprint à l'époque, c'était plus quand j'entraînais les mecs du foot américain. Donc c'est des séances collectives... C'était mieux toujours de montrer ce qu'il faut faire, de donner l'exemple plutôt que de juste dire ce qu'il faut faire. Mais après, ce que j'en pense pour la prise de muscle, ça n'a pas grand intérêt de faire d'intégrer des mouvements explosifs à charge légère, de travailler la puissance ou de faire des pompes claquées, des trucs comme ça n'a pas...
En gros, tu es en train de nous dire que c'est intéressant pour développer une certaine polyvalence, quoi.
Voilà. Exact. Julien a tout résumé, bravo. Tu m'as écouté, Julien, je suis impressionné.
On pouvait faire ça en une phrase, mais bon, on a eu les explications de Rudy. Merci, Rudy.
Et je voulais partager une expérience. Oh. Quand il est crevé, il est chiant, celui-là. Je propose qu'on le teigne en brun ou en cheveux noirs. On va le massacrer.
Ah non, je suis pas d'accord.
Donc, la dernière partie de la question, c'est est-ce que à mon âge, c'est trop tard? Flo à 32 ans, non, ce n'est pas trop tard pour acquérir donc une certaine polyvalence, une explosivité, être plus habile. C'est pas trop tard. Hein. Surtout si t'en as jamais fait, tu vas vite sentir les bienfaits sportivement. C'est vrai que quand on fait de la muscu et qu'on est lent à la base déjà, après on est un peu lent dans tous ces déplacements. Donc là, c'est sûr que ça va redonner un peu de peps. Donc voilà. Julien.
Oui.
On t'entend au clavier.
Ah bon?
Dans le dernier podcast, tu as parlé des effets des boissons light sur la sèche. Qu'en est-il des effets sur la santé? L'aspartame serait-il vraiment néfaste ou ces dangers n'ont été prouvés que via des études sur les souris?
Sur l'aspartame, j'avais fait un article pour Nutriting, donc nutriting.com.
Donc Nutriting qui est la marque de suppléments de Patricka de la Team Superphysique, que nous recommandons.
Tout à fait. Il y a un article qui s'appelle « Les dangers de l'aspartame, mythe ou réalité ?» dans lequel je retrace un peu l'historique de l'aspartame. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit un peu toutes les magouilles et tout ce qu'il y a eu dans cette histoire. Donc je pense que la dangerosité de l'aspartame n'est pas encore parfaitement déterminée. Donc on aura dans les années à venir d'autres études qui nous permettront d'être encore plus précis là-dedans. Donc a priori déjà si on est une femme enceinte, il vaut mieux éviter d'en consommer. Et après pour les personnes en bonne santé, à petite dose, c'est probablement pas dangereux, mais j'éviterai d'en mettre partout sur ma bouffe à outrance quoi. Donc la dernière fois, on avait parlé des boissons light pendant le régime pour aider le régime. Mais il faut éviter de boire ça toute l'année, c'est pas forcément super malin quoi.
De toute façon, c'est toujours pareil, c'est l'excès de toute façon est toujours néfaste, qu'est-ce que soit qu'on mange quoi.
Oui, on peut dire ça comme ça.
T'as vu, j'ai résumé en une phrase.
Ouais.
Mais ouais. Merci de tes explications, Julien.
Je t'en prie. Par contre, après, dans les édulcorants, il y a l'aspartame, mais il n'y a pas que l'aspartame. Il y a d'autres édulcorants. Il y a la stevia, par exemple, qui est complètement sans danger, qui est un extrait d'une plante, mais qui est par contre beaucoup moins sucré, beaucoup moins, qui a un goût un peu amer. Enfin, ça dépend des extraits, mais bon, ça n'a pas exactement le même goût. Donc, les fabricants, en général, maintenant, pour attirer le consommateur, ils mettent sur la bouteille avec des extraits de stevia, et en fait, c'est juste une petite partie de stevia.
Ouais, ouais, et puis ils foutent plein d'autres édulcorants, j'avais vu ça.
Voilà, ouais, et ils continuent de mettre les autres édulcorants à la place, parce que sinon, ça change trop le goût du produit, et les gens ne seraient pas très d'accord pour l'acheter, quoi.
Ah bon?
Bah ouais. Voilà ce qu'on peut dire sur les édulcorants.
Donc, un petit peu, c'est pas trop mauvais, mais dès qu'on en boit un peu tous les jours, bon, faites gaffe. Hein. Faites gaffe. Alors, question d'entraînement. Bien que mon alimentation et mon training triceps n'ont pas changé, la congestion de mes triceps est beaucoup moins importante qu'il y a quelques semaines. Cela peut s'expliquer comment? Est-ce que cela veut dire que cet entraînement a perdu en efficacité? Donc, pour moi, on pose la question dans le mauvais sens, à savoir que tant qu'on progresse, ce qui compte pour juger l'efficacité de l'entraînement, il faut voir la progression au fil des séances, et c'est ce qui détermine l'efficacité de l'entraînement. La congestion n'est qu'un repère permettant de savoir si le muscle travaille correctement. Donc, par exemple, je fais donc les triceps, mes triceps congestionnent un petit peu, ça veut dire que je les travaille, tout simplement. Et ce n'est pas le facteur déterminant de la progression, c'est plutôt la construction d'un bon cycle, l'utilisation du rest pause, etc. Comme j'explique dans mes e-books. Et donc non, ça ne veut pas dire, si je congestionne moins, que j'ai perdu en efficacité. Alors après, on peut avoir moins de congestion, ça veut dire de plein de choses, hein. Il suffit qu'on ait un peu moins bien dormi, donc on est un peu moins en forme. Il suffit que d'un coup, on ait un peu plus d'activité dans la journée, on a moins de réserve glucidique, on est moins en forme, donc on va moins congestionner aussi. Il suffit d'avoir changé un peu ses habitudes et de ne pas être encore habitué. Il suffit, je sais pas, là, j'ai pas des exemples, mais par exemple, j'ai pris de l'arginine un jour à l'entraînement, et puis après, j'ai oublié d'en reprendre, forcément, je vais moins congestionner. Donc après, non, la congestion, comme je viens de le dire, ce n'est qu'un repère, important, entre guillemets, qui permet de déterminer si le muscle qu'on veut travailler travaille bien. Après, ce n'est pas le facteur primordial qui permet de juger de l'efficacité d'un entraînement. C'est plutôt la progression, comme j'ai dit, de séance en séance, qui permet de voir si l'entraînement est efficace ou pas. Parce qu'on peut très bien faire des séries de 30 à fond, par exemple pour les biceps à 8 kg, congestionner à fond à chaque fois, mais il ne va rien se passer, quoi. Et on va moins congestionner en faisant des séries de 15 à 12, par exemple, mais pourtant c'est bien plus efficace que de faire des séries de 30 à 8. Donc mmh. pour les biceps, je parle. Hein. Donc voilà. Donc Julien.
Oui.
Je te conseille de progresser et pas de congestionner en priorité.
D'accord.
T'as compris? D'ailleurs, petit aparté, Julien s'est mis à mon exercice magique de triceps.
Ah oui?
Que je donne dans ma newsletter sur mon site rudycoya.com, qui est gratuite. Et je lui ai dit de faire cet exercice, et ça fait 3 semaines qu'il prend les triceps. Hein, Julien?
Bah, je sais pas, c'est toi qui juge.
Oh, le salaud, putain, on va rentrer.
Tu m'as vu, alors.
Oh, le pourri, le mec.
Tu m'as vu, tu peux dire?
Julien me fait des posings tous les mercredis soirs. Hein. Je me fais un double biceps du tonnerre à chaque fois.
Tout nu.
Non, pas tout nu.
Ah si, on peut le faire, ouais. Rudy.
Oh putain.
De toute façon, voilà. Et c'est vrai que cet exercice, il est vraiment bien. Et là, je suis environ à 123 kilos, je crois, de poids à peu près. Hein. 123, donc je continue à manger pour passer 125.
T'es vraiment fatigué, toi.
Ouais.
T'es vraiment fatigué. Alors, on a la dernière question, c'est une question un peu générale à laquelle Julien et moi on va répondre. C'est, avez-vous des recommandations spécifiques aux personnes qui commencent la musculation avec un surpoids important, comme faire du cardio par exemple? Donc, est-ce que tu veux commencer la partie diète ou je commence la partie entraînement?
Bah écoute, vas-y, commence la partie entraînement.
Donc la partie entraînement, pendant avec un surpoids, il n'y a pas tellement de contre-indications, donc il y en a surtout sur le cardio. C'est-à-dire qu'on va pas aller courir si on fait 1m70, 100 kg.
Non, mais de toute façon, même si on fait pas 100 kg.
Non, mais là, on parle de... Ah, putain, Julien, il m'en fout.
Bah non, mais attends. Déjà, quelqu'un qui fait 90 kg pour 1m70, c'est un surpoids important. Si c'est pas que du muscle.
Je peux répondre, Julien?
Bah vas-y, réponds.
Ah putain, il m'en fout. Donc, les recommandations spécifiques aux personnes qui commencent la musculation avec un surpoids important. 1. Ne pas courir. Étant donné les chocs que cela implique, donc ça va être plus dangereux que si vous êtes à un poids raisonnable. Après, si on parle de type de cardio, tous les autres cardio sans choc, style vélo, pour faire plaisir à Julien, on peut en faire sans souci. Si le but est de maigrir et qu'on n'y arrive pas malgré le régime et l'entraînement. Comme j'explique dans mon e-book, mais c'est fait pour sécher. Ensuite, niveau entraînement, il n'y a pas... Si on a passé des examens de santé, on est sur certificat médical, si le médecin était bon et puis qu'on est sur certificat médical, a priori, il n'y a pas spécialement plus de danger qu'avec une personne normale. Donc, s'entraîner, normalement, il n'y a pas de... Pas particulièrement de soucis là-dessus, tant qu'on est motivé, quoi. Il n'y a pas de... Julien ?
Oui ? Moi, je pense que quand on débute surpoids ou pas, si on débute la musculation, c'est qu'on a comme objectif de prendre du muscle, de la masse musculaire. Si on n'a pas un autre objectif en termes de cardio, par exemple qu'on veut être bon pour la course à pied ou voilà quelque chose comme ça, pas de raison spécialement d'aller faire du cardio, y compris pour perdre du poids, c'est pas spécialement de faire du cardio qui va aider à perdre du gras. Autant s'entraîner plus souvent dans la semaine. À la muscu, et puis avoir une bonne alimentation, ça, au contraire, ça va accélérer les gains.
Est-ce que tu as des conseils particuliers niveau alimentation pour les personnes en surpoids?
Bah oui, c'est de ne pas se mettre à un régime trop, trop restrictif, oui, parce que on est dans le cas d'un débutant, donc il faut quand même. Le but c'est quand même de faire un petit peu de masse musculaire hein, et de brûler du gras, ça va un peu ensemble. Du coup, si on mange pas assez, ben on va peut-être perdre du gras, mais on fera pas de muscle et au final le résultat il sera pas très plaisant. Donc il faut savoir être patient et manger un tout petit peu moins que ses besoins, mais on doit pas se sentir fatigué constamment, ce genre de choses qui sont plutôt fréquente lors d'un régime assez marqué.
C'est vrai que souvent quand on veut maigrir, on est pressé et on n'imagine pas le temps que ça va prendre. Donc c'est ce que je montre encore une fois bien dans mon e-book. C'est qu'on s'imagine pas le temps que ça va prendre. Donc imaginons que vous avez 30 kilos à perdre, ça va pas se faire en 6 mois.
Ah non, ça c'est sûr.
Non mais c'est important de le dire parce que souvent les gens sont très très pressés, ils se disent bon bah je vais faire un régime, là j'ai un élève justement qui est rentré de vacances, donc heureusement que je le coach, et il me dit ouais putain j'ai pris 3 kilos, est-ce que je peux faire un régime fruits pendant 5 jours? Manger que des fruits pendant 5 jours. Je dis bah non, c'est pas... tu vas crever. C'est pas ce qu'il faut faire. Pour reperdre 3 kilos, faut plutôt réadapter l'alimentation, et etc. Donc voilà, c'était important de dire que de toute façon, faut pas trop se restreindre au début d'un régime, et puis suivre progressivement. C'est à rien de démarrer sur les chapeaux de roue. Bien comprendre que c'est un processus, quand on est vraiment en surpoids, un processus à long terme.
Oui, puis aussi, un truc à dire, c'est que si on est en surpoids, en général, c'est qu'on a eu une mauvaise alimentation. Déjà, le simple fait de se tourner vers une alimentation de meilleure qualité, en choisissant mieux ses glucides, en choisissant mieux ses protéines, en mangeant plus de fruits et légumes, etc. Tout ça, ça va contribuer à avoir plus la forme, à être plus performant et à perdre du gras assez facilement. Donc, l'idée de faire un régime draconien doit vraiment pas venir à l'esprit. C'est pas le moment de le faire. On est au contraire, quand on arrive dans cette situation, on est dans des bonnes conditions pour progresser. Donc, il faut le mettre ça à profit, quoi.
Ouais, bah, je pense qu'on a répondu à la question, à part le cardio, courir, il n'y a pas vraiment de contre-indication particulière, si ce n'est celle habituelle. Bon, bah, il y a un petit point que j'ai oublié de noter, on peut en parler. La semaine dernière, Julien a été voir Wolverine, j'ai été cette semaine, donc actualité cinéma. Julien, qu'as-tu pensé de Wolverine?
Bah, moi, je trouvais que c'était pas mal.
Bah, j'étais déçu, moi.
Pourquoi t'as été déçu?
J'ai été déçu du film parce que on est habitué, sans trop dévoiler du film, à un Wolverine assez animal, bestial. Et même dans Wolverine, et là j'ai trouvé vraiment le mec diminué, donc beaucoup plus sec que dans le 1.
Ah ouais.
Mais bien plus maigre que dans le 1 aussi.
Ah bah il a pas de jambes là dedans.
Là il a plus de jambes du tout.
On le voit à un moment
on se dit il a deux béquilles.
Ouais ouais.
À la place des jambes, et même du haut, on voit que, putain, il a perdu, je sais pas, il y a au moins 7-8 kilos d'écart, quoi.
Ouais.
Ouais, il y a 7-8 kilos, donc j'étais un peu déçu de ça, et après, même l'histoire en elle-même, donc on va pas dévoiler le truc, mais était loin du Wolverine qu'on connaît.
Oui, ça, on est d'accord que c'est moins bien que les autres épisodes, mais...
Ouais, après, c'est...
Ça reste un bon film d'action, il y a du suspense, on s'ennuie pas, on passe un bon moment, quoi.
Ouais, mais c'est pas un Wolverine pour moi.
C'est sûr que c'est pas... ouais, c'est pas...
C'est pas Wolverine.
Voilà.
C'est un peu... Enfin bon. Donc moi, je ne vous recommande pas d'aller les voir. Julien, est-ce que tu recommandes d'aller voir Wolverine?
Bah, pour ceux qui veulent un film pendant lequel on réfléchit pas du tout et qui ne savent pas quoi aller voir au cinéma, bah oui, pourquoi pas. Après, c'est pas le film que j'achèterai en DVD ou que...
J'aime bien cette actualité cinéma des mecs balèzes. Donc ça conclura le podcast de ce soir. Donc je rappelle que vos questions, si vous en avez, sont à poser sur le forum. Donc c'est rubrique entraînement. Tout simplement, il y a un sujet qui s'appelle podcast. Donc il y a juste à mettre vos questions dedans et après bah je les note en entier et petit à petit bah, on y répond chaque mercredi soir. Et donc avec plaisir, même quand Julien n'a pas de fouillesse. Donc voilà, donc sur ce, à la semaine prochaine.
Salut Rudy, salut à tous.